Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. Nous dansons entre deux martyrs et pour le lilas entre eux, nous dressons un minaret ou un palmier. Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. Au verre à soie, nous dérobons le fil pour édifier un ciel qui nous appartienne et enclore cette migration. Et nous ouvrons la porte du jardin pour que le jasmin sorte dans les rues comme une belle journée. Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. Là où nous élisons demeure, nous cultivons les plantes vivaces et récoltons les morts. Dans la flûte, nous soufflons la couleur du plus lointain. Sur le sable du défilé, nous dessinons les hennissements. Et nous écrivons nos noms, pierre par pierre. Toi, l'éclair éclairci pour nous la nuit, éclaircis donc un peu. Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Aligre FM 93.1. Les mots de Mahmoud Darwish, dit par Didier Sandre, vous le savez peut-être, c'est désormais une tradition pour ouvrir une émission spéciale consacrée à l'actualité au Proche-Orient et plus précisément à Gaza et en Cisjordanie. 18 mois après le blocus total de la bande de Gaza, au moment où l'armée israélienne lance une offensive terrestre d'une violence sans précédent, annoncée et assumée par des déclarations jusqu'au boutiste de ses dirigeants, nous vous proposons une émission spéciale donc ce matin avec moi dans ce studio Dominique Vidal, historien et journaliste qui scrute ce conflit depuis de longues années. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Et en ligne avec nous Rami Abou Jamous, fondateur de Gaza Press, qui n'est pas encore en ligne, mais ça ne saurait tarder, on me fait signe en régie. Rami Abou Jamous nous permet de documenter ce qui se passe au quotidien dans cette bande de Gaza, fermée à la presse internationale depuis le début de l'offensive après le 7 octobre 2023. Une contribution précieuse pour garantir l'information, alors que plus de 200 journalistes palestiniens sont morts dans le sillage de Shirin Abu Akleh, tristement célèbre pour sa mort brutale. Elle était journaliste américano-palestinienne. Elle est morte le 11 mai 2022 à Jénine. Alors nous sommes aujourd'hui, Dominique Vidal, à ce qui semble être un tournant. Mais avant de parler de ce moment de bascule possible sur le plan politique et peut-être sur le plan de l'opinion internationale, j'aimerais que vous nous disiez votre sentiment, vous qui scrutez ce conflit depuis très longtemps. Vous êtes à l'origine de nombreux ouvrages extrêmement documentés. Aviez-vous imaginé un instant que nous pourrions en arriver à ce stade de violence? On a vu hier les images de diplomates invités par le Fatah à Jénine et pris pour cible par deux soldats de l'armée israélienne qui opéraient sous les ordres de leurs supérieurs.
Il faut bien comprendre qu'à l'origine de cette guerre, il y a une radicalisation, non pas seulement de la direction israélienne, mais d'une partie de l'opinion. Et dans ces situations-là, ce qui peut apparaître comme un feu vert débouche sur des drames possibles. Parce que hier, on a bien vu que ça a été une chance extrêmement forte d'avoir échappé au tir. Le groupe était un groupe important et les balles les ont frôlées, quoi. Donc on a, à travers cette petite anecdote, mais qui a réveillé beaucoup de gens, on a un signe de cette folie, quoi, qui s'est emparée depuis le 7 octobre d'une bonne partie des Israéliens. Il y a des tout petits signes en Israël, il faut le dire aussi. Il n'y a pas que des raisons internationales à regarder. En Israël, on a, pour la première fois depuis longtemps, des sondages très mauvais pour la coalition et pour Netanyahou en particulier. On a aussi des voix qui s'élèvent, qui ne s'étaient pas élevées jusque-là. Je pense au président du parti qui unit actuellement l'ex-parti travailliste et l'ex-Meretz, et qui a été extrêmement choquant pour beaucoup d'Israéliens dans ses déclarations. Mais il y a aussi, on sent un climat. En Israël, l'opinion, elle est assez volatile, souvent. Pas sur l'essentiel, mais hors de l'essentiel, elle est assez volatile. Donc, il faut regarder ça de près. Et puis, on a donc, à l'échelle mondiale, quelque chose qu'on attendait depuis 19 mois, c'est-à-dire des dirigeants d'État qui sont les alliés d'Israël, qui ont collaboré à cette guerre par leur silence sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité perpétrés par l'armée israélienne, et qui commencent à parler. On a eu, coup sur coup, une déclaration de l'Union européenne, avant la fusillade de Jenin, annonçant qu'elle allait réétudier l'accord d'association entre l'UE et Israël. C'est très important, c'est un tiers du commerce israélien, commerce extérieur, qui va ou qui vient de l'Union européenne. Donc c'est extrêmement important. Nous avons eu aussi des réactions très fortes du Royaume-Uni, qui a, quand on connaît l'histoire, on le sait, des responsabilités majeures dans tout ce drame d'un siècle de folie. Et puis, on a eu les déclarations d'Emmanuel Macron, là aussi avant la fusillade d'hier, qui est revenu du Caire et de sa visite à proximité de Gaza, avec une intonation très différente, je trouve, de ce qu'il avait dit jusque-là, depuis le début. On avait même eu l'impression au début qu'il était le chef de guerre qui allait faire l'alliance anti-Hamas, hein, on se souvient de ça. Entre-temps, il a mesuré évidemment l'horreur de la guerre israélienne, tout le monde la mesure évidemment. Et là, il a annoncé qu'au mois de juin, la France reconnaîtrait sans doute l'État de Palestine. Elle ne sera pas la première. Hein. On a actuellement presque 150 États qui reconnaissent l'État de Palestine. Donc, il n'y a pas de quoi faire afficher un grand courage.
Et ça arrive quand même un peu tard, Dominique Vidal ?
Moi, oui. Sur ma petite page Facebook, j'ai titré « Mieux vaut tard que jamais ». Mais ça a failli être jamais, quand même. Donc, c'est une situation qui est intéressante, qu'il faut regarder de près. Alors, on sent même du côté de Donald Trump une hésitation. Il avait donné l'impression d'appuyer à 100% la guerre de Netanyahou. Visiblement, il en est revenu, quoi. Et il y a, semble-t-il, dans la coulisse, dans les coulisses diplomatiques, des pressions assez fortes des États-Unis sur Israël.
Alors Dominique Vidal, si vous le voulez bien, on va introduire dans cette émission Rami Aboujamous qui est en ligne, je crois. Bonjour Rami.
Bonjour Nadia.
Vous m'entendez bien ?
Oui, oui, je vous entends.
Bon, merci d'être avec nous ce matin dans cette émission, Rami Aboujamous. Chaque matin, vous nous informez de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Gaza Press, qui aidait les journalistes étrangers dans leurs démarches et leurs enquêtes sur place. Votre voix est précieuse et chaque matin, vous nous donnez le bilan des morts de la nuit, des ordres de déplacement. On a vu des images circuler sur les réseaux sociaux de populations de plus en plus épuisées, malnutries, qui peinent à quitter les lieux qu'on leur demande de quitter pour se rendre ailleurs sans être sûr d'y trouver la sécurité promise. Cette nuit, vous nous avez annoncé l'arrivée d'une trentaine de camions. On en compte au total 92, c'est bien ça, des camions d'aide humanitaire. Et dans le même temps, un hôpital, le service chirurgical plus exactement, de l'un des derniers hôpitaux qui fonctionne encore un peu, et on peut se demander comment, a été bombardé. C'est bien ça. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces deux événements, Rami Abou-Jamous?
Oui, bien sûr. Chaque nuit, malheureusement, il y a toujours des massacres et des boucheries. Et là, parce que c'est justement le nord qui est le plus touché. Et l'hôpital dont on est en train de parler, c'est un hôpital qui se tue au nord. C'est un hôpital qui appartient à une association. Et c'est pas un hôpital public, mais parmi les seuls hôpitaux qui sont toujours en service. Le Nord, malheureusement, il y a trois hôpitaux où les gens ils pouvaient compter. L'hôpital Kamal Adouane et l'hôpital indonésien, qui sont deux hôpitaux publics et que pouvaient accueillir les gens dans les journaux, dans les jours normaux avant la guerre. Mais malheureusement, pendant la guerre, l'indonésien, il a été attaqué, il a été bombardé plusieurs fois, il a été assiégé. Pareil pour le Kamal Adouane, attaqué, bombardé, assiégé. Et donc, ils sont malheureusement hors service. Et là, l'hôpital dont on est en train de parler, c'est un hôpital, normalement, c'était plutôt pour la maternité, pour quelques services chirurgicaux, mais c'est pas un hôpital qui est prêt à recevoir des flux de blessés quand il y a de ce genre de bombardement intensif et surtout ce grand nombre de blessés. Et malheureusement, c'est le seul hôpital. Hier soir, malheureusement, il était encerclé. Et puis, le troisième étage, c'est le département chirurgical, a été bombardé. Et il y a une incendie qui est en train de jusqu'à présent, ou alors on en parle, il y a toujours du feu. Et malheureusement, cette zone-là, c'est une zone où la protection civile ou la défense civile ne peut pas y arriver. Il ne peut pas avoir accès, déjà par manque de moyens, manque de véhicules, et aussi parce qu'on sait très bien qu'à chaque fois qu'il y a une intervention de ce genre de secouristes, malheureusement, ils sont visés. Donc là, on parle à peu près de 130 personnes qui sont dans cet hôpital. Ils sont plus ou moins en danger à cause du feu. Ils essayent d'éteindre le feu avec des extincteurs ou bien qu'est-ce qu'ils ont de moyens, mais malheureusement ils sont toujours en danger. On parle de il y a des volontaires, il y a des bénévoles, je veux dire, il y a aussi des médecins, il y a aussi des patients, malheureusement. Et tout ce qui concerne l'aide humanitaire, on attendait ça depuis trois jours. On essaie où il y avait des promesses qu'ils vont avoir de l'aide humanitaire qui passe. D'après l'accord de Witkoff, Hamas, il devait avoir 100 camions qui passent tous les jours avec la libération d'Alexandre, israélo-américain qui était dans les mains du Hamas. Mais malheureusement, ça a reporté plusieurs fois. Là, pour le premier jour, ils ont fait passer juste 4 camions avec des compléments nutritifs pour les bébés. Et hier, ils ont libéré 92 camions. La majorité, c'est pour les... pour le programme mondial d'alimentation. Et normalement, c'est de la farine pour faire fonctionner les boulangeries, que ça fait plus que trois mois à peu près, ou un peu plus que deux mois. Ils sont hors service, malheureusement, parce qu'il n'y a plus de farine, et surtout, il n'y a plus de fuel pour faire fonctionner les boulangeries. Et comme vous le savez, le pain, c'est vraiment l'aliment essentiel pour les Palestiniens, et surtout dans la famine, même si on ne trouve pas à manger, avec un peu de pain, ça peut passer. Et là, il y avait donc 92 camions qui sont arrivés, et parmi ces camions, il y a aussi 30 camions pour l'UNICEF, justement, qui a aussi des aides humanitaires concernant tout ce qui est complément nutritif pour les enfants. Et on espère que ça va continuer. Et quoi, ces 92 camions qui sont passés, c'est vraiment une goutte dans un océan de besoins de toute la bande de Gaza, que ce soit au niveau des aliments et de l'eau, mais aussi au niveau de la santé. Malheureusement, on vient de parler des hôpitaux. Le service de santé, ou bien tout ce qui est système de santé, a été anéanti. La majorité des hôpitaux essentiels, on va dire, ou bien les hôpitaux qui devaient fonctionner d'une façon correcte, ils sont hors service. Et ceux qui restent, malheureusement, ils travaillent d'une façon partielle, ils sont dans un grand manque, que ce soit de médicaments, de matériel médical et de soins en général. Et ça applique aussi non seulement sur tout ce qui est service public, mais aussi pour les ONG internationales qui sont venues secourir la population, justement parce que le système de santé publique a été anéanti. Même ces ONG-là, malheureusement, ils souffrent de la même façon, parce que d'habitude, les ONG internationales, ils ont eu leur propre coordination, même s'il n'y a pas de soins qui entrent pour les hôpitaux. Les ONG internationales, ils ont leur propre coordination et d'habitude, ils ont tout ce qu'il faut. Et c'est pour ça que les gens, ils prenaient recours toujours à ce genre d'hôpitaux de campagne. Mais malheureusement, depuis le 2 mars, même ces ONG-là, ils souffrent de la même chose. Manque de médicaments, manque de matériel et surtout le fuel, parce que toute la bande de Gaza, il n'y a pas d'électricité. Il y a toujours ce système B, soit avec les générateurs ou les groupes électrogènes, soit avec les panneaux solaires. Et les deux, on nous trouve rarement à Gaza à cause de blocus. Donc, c'est une condition de vie très difficile. Là, c'était un peu ce matin, les gens ils se sont sentis un peu qu'il y a encore de l'espoir, puisqu'il y a 92 camions qui vont passer et qui sont passés. Peut-être aujourd'hui aussi à y avoir son camion, mais on sait très bien que Netanyahou, il l'a dit avec son discours hier, que c'est juste quelques gouttes pour calmer les besoins à Gaza, mais à la fin on veut réoccuper toute la banque de Gaza, et surtout il utilise sans honte qu'il faut passer par le plan de Trump, déplacer et déporter les 2,3 millions de personnes de Gaza vers l'étranger.
Merci Rami Aboujamous pour ce témoignage.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Dominique Vidal, ce qu'on entend là, ça donne le sentiment que l'entrée de l'aide humanitaire, si elle était évidemment attendue, souhaitée, souhaitable, sert un peu d'écran de fumée à un plan de nettoyage ethnique qui est un peu maquillé en migration volontaire, ou ça vous semble excessif de poser l'équation
comme ça ? Oh non, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de Palestiniens qui puissent imaginer une solution au problème de Gaza et en général de la Palestine par des opérations humanitaires comme celle-là. En fait, l'humanité, c'est la liquidation de la question palestinienne. C'est ça que Netanyahou comme Trump ont en tête. Alors, il semble qu'il n'ait plus tout à fait la même posture dans le concret des choses. Moi, je crois que les quelques gestes dont parle Rami, ce sont des gestes surtout pour calmer les Occidentaux après les prises de position dont j'ai parlé. Et aussi pour calmer l'opinion israélienne, car visiblement, on est là aussi dans un moment de bascule, enfin en tout cas d'hésitation. Il semble que la moitié des réservistes appelés par Netanyahou à combattre refuse de le faire. La moitié des réservistes, c'est beaucoup. D'autant que l'armée israélienne, comme on le sait, est une armée qui repose sur la conscription, de toute évidence.
Mais en même temps, un journal, je crois que c'est Le Monde, qui soulignait combien le discours génocidaire se banalise dans les médias israéliens, dans les médias mainstream notamment.
C'est vrai, mais ça, c'est la phase qui a commencé le 8 octobre. On n'oubliera jamais le service incroyable que le Hamas a fourni à Netanyahou, à l'extrême droite israélienne, avec l'opération terroriste du 7 octobre. On a eu une opération terroriste à son tour israélienne, sauf qu'elle n'a pas duré un jour, elle dure depuis 19 mois.
Et elle fait plus de 50 000
morts. Personne ne sait. Moi, je ne me sens plus capable de donner des chiffres parce que on ne sait pas combien de gens sont sous les dégâts. C'est quand même une situation incroyable, quoi. Quand on entend Rami, on comprend pourquoi le Premier ministre britannique ou le président français ou d'autres commencent à parler. Ils commencent à parler non pas sans doute par une conviction humaniste profonde, mais surtout pour ne plus être complices, visiblement, d'un véritable génocide.
Rami Aboujamous, je ne sais pas si vous entendez bien ce qui se dit en studio.
Oui, j'entends très bien.
Bon, est-ce que vous espérez aujourd'hui de ce frémissement qui se joue chez certaines puissances occidentales, en France par exemple, ou bien est-ce que ça vous semble trop tard et dérisoire dans la mesure où rien n'a été fait jusqu'à présent ?
Moi, bon, c'est plutôt comme Dominique, c'est mieux tard que jamais. Et je crois que, moi j'appelle ça un réveil de l'humanité, parce que on sait très bien qu'on a souffert pendant 18 mois, que c'est un terrorisme d'État qu'on est en train de subir. Et non seulement c'est un terrorisme d'État, mais c'est aussi le côté religieux. Là, on parle de l'opération des chariots de Gédéon. Et c'est la même nomination qui a été donnée en 1948 pour expulser la population de Bessane dans la Palestine historique, pour expulser les gens vers la Jordanie et vers d'autres pays. Là, on utilise la même chose. Donc, y a ce côté religieux. Moi, je considère que c'est un peu ces deux judaïstes de Netanyahou, parce que Netanyahou utilise la religion. Il a déjà utilisé le mot Amalek pour donner le feu vert à tuer toute personne dans la bande de Gaza, les enfants, les fœtus, les mamans. Et c'est toujours cette notification ou bien cette définition religieuse qu'il utilise. C'est vraiment un judaïste terroriste qui veut, pour ses besoins politiques, déjà isoler Israël et en plus inciter la population israélienne contre tous et tout espoir pour faire la paix ou bien pour qu'on se dirait qu'on peut vivre à côté des Palestiniens. Et justement, comme il dit Dominique, il y a un changement à la population israélienne parce qu'ils étaient choqués de ce qui s'est passé. Et en même temps, avec la machine médiatique qui est derrière tout ça, qui commence à dire que la population palestinienne, les Palestiniens, même malheureusement la gauche qui était plus ou moins pour la paix, pour l'État, pour deux États, la solution de deux États, maintenant cette gauche-là, il se pose la question, est-ce que vraiment il faut que le Palestinien parte? Et tout ça, c'est à cause de Netanyahou, sa propagande, et c'est à cause de ces judaïstes, si je peux utiliser ce mot, qui utilisent toujours la religion, comme les islamistes chez nous, quand ils utilisent l'islam pour des propos, pour tuer, pour faire ce qu'ils veulent. C'est la même chose qui est en train de se faire, mais là, c'est juste la religion qui est différente. Mais malheureusement, cet soulèvement ou bien ce réveil des pays occidentaux, c'est jamais trop tard. Et surtout, vous savez, le génocide n'est pas encore fini. Et si on dit que c'est aux historiens qui définissent si c'est un génocide ou pas, je ne sais pas si on va entendre que 2,3 millions de personnes soient tous morts pour dire que les historiens, un jour, ils vont dire oui, c'était un génocide. Moi, je vois que c'était plutôt les juridistes qui devaient dire est-ce que c'est un génocide ou pas, l'humanité qui doit dire c'est un génocide ou pas. Il n'y a rien de se cache de tout ce qui se passe à Gaza. Et en plus, l'arrogance de Netanyahou de dire les choses telles qu'il est devant tout le monde sans qu'il y aura de condamnation. Hier, il a répété plusieurs fois qu'il allait conquérir la bande de Gaza, qu'il allait déplacer les gens et qu'il allait finir par les déporter dans des pays étrangers. Est-ce que tout ça, ce n'est pas un génocide et ce n'est pas un nettoyage ethnique? Mais je vois que déjà la France commence à bouger. Et le Royaume-Uni, c'est très bien aussi. Et surtout, l'utilisation de dire le mot « on va prendre des mesures », ça a fait un effet aussi. On sait très bien que Israël et Netanyahou, précisément, c'est l'enfant gâté des États-Unis. Trump, maintenant, il essaye de tourner le dos, mais il n'arrive pas. Mais avec un peu de soutien de l'Occident et surtout de l'Europe, on peut tourner le dos et on peut faire quelque chose pour tout arrêter. Et là, ce qui dit Netanyahou, qu'il ne faut pas affamer la population, mais on va donner juste de compte à goutte à ces gens-là pour qu'ils nos amis ne soient pas fâchés. Donc même pas pour une question humanitaire, parce qu'on est un peuple qui mérite vivre, qui mérite avoir à manger, à boire sous occupation, et que l'occupation doit fermer tout ça. Non, c'est juste pour ne pas les amis soient fâchés, ou bien les sénateurs soient fâchés, ou de tourner contre eux. Donc malheureusement, c'est pas suffisant ce qui est en train de se faire, mais ça se voit que si on veut, on peut. Là, on a commencé à vouloir, mais on n'a pas pris les mesures nécessaires pour finir tout ça. Et non seulement cette arrogance de Netanyahou et de son de gouvernement d'extrême droite, mais c'est aussi de l'armée. Hier, vous avez vu comment l'armée s'est tirée sur les diplomates occidentaux qui étaient proches de Jinin. Ils savaient très bien qu'il y avait la coordination. Parce que les gens qui sont en Europe ou bien qui sont à l'étranger, ils ne savent pas comment ça se passe avec les Israéliens et surtout avec l'armée. Il n'y a pas une voiture qui passe d'un Donc, que ça soit, il y a une coordination pour le faire, et surtout pour les diplomates. Ils savent très bien où ils sont, qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils sont là. Et malgré ça, ils les ont tirés dessus. C'est vraiment l'arrogance totale qu'on est un pays sur la loi, on est un pays où on peut faire ce qu'on veut, même envers des diplomates. Et le problème qu'on a, c'est toujours ce problème de réciprocité. Il n'y a pas de réciprocité. Les Israéliens, ils font ce qu'ils veulent. Et de l'autre côté, on se contente. Avant, maintenant, ça a changé un peu, mais on se contente toujours de dire qu'Israël a le droit de se défendre. Là, je crois que cette phrase, on l'entend de moins en moins, ou bien on l'entend pour justifier un peu les mesures qu'on va le faire. On fait ces mesures-là parce qu'on veut le bien d'Israël. Ce qu'il a dit le ministre des Affaires étrangères français en disant oui, on va prendre décision, c'est pour le bien d'Israël. C'est pas parce que de questions humanitaires ou parce que les Palestiniens méritent de vivre ou bien les Palestiniens méritent de finir l'occupation, mais plutôt c'est pour le bien d'Israël. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a toujours l'Israël en premier et puis nous on est des citoyens de second degré et même parfois on voit plus que ça et on est un peu, comme il dit le ministre de la guerre, l'ancien ministre de la guerre, on est des animaux humains. Et c'est pour ça que moi, quand j'entends ce mot et je vois tout ce qu'on est en train de vivre tous les jours, les massacres à des enfants et des enfants déchectés, les enfants et les parents qui cherchent leurs enfants sous les décombres, ou bien l'inverse, ou bien un parent qui est en train de prendre les chairs de son fils et mettre dans un sac parce qu'il a été déchecté. Et je vois tous ces images-là et je vis tous les jours ces images-là. Et je vois que le monde ferme les yeux. J'ai dit vraiment, le monde croit qu'on est vraiment des animaux humains. Et même les animaux, que ce soit en France ou en Occident, ils ont leurs droits. Si on trouve quelqu'un qui est en train de tabasser un chat, bah, tout le monde se mobilise. Et surtout, on peut emprisonner la personne qui a agressé le chat. Et quand il s'agit des Palestiniens, malheureusement, on est hors de tout ces valeurs-là, les valeurs qu'ils essayent, l'Occident, de nous donner, les valeurs de droit international, de la loi internationale, de l'humanité, de l'égalité, de la fraternité. Apparemment, en Palestine, ces valeurs n'existent pas. Et non seulement ça n'existe pas, on inverse les rôles, on inverse les définitions. L'occupant devient occupé et l'occupé devient occupant. Le bourreau devient la victime et la victime devient le bourreau. Il veut que de nous, qu'on soit une victime gentille, une victime qui dit rien du tout, une victime qui est en train de se tabasser et de se massacrer 24/7 et surtout ne pas bouger ou dire quoi que ce soit, il faut se taire pour qu'à la fin il y aura ce nettoyage ethnique et que Israël prend toute la Palestine historique.
Rami Abou Jamous, alors je rappelle pour les auditeurs qui nous rejoindraient que vous êtes en direct depuis Gaza. Vous-même, vous avez quitté en octobre 2023 Gazaville avec votre épouse, les enfants de celle-ci et Walid, votre fils de 3 ans. Et vous avez été soumis à d'autres déplacements. Dernièrement, on vous a également demandé de quitter l'endroit où vous êtes. Vous avez refusé, de même que vous avez refusé de quitter Gaza pour la France, où vous auriez pu demander à être évacué par le consulat français. Vous avez vécu longtemps en France. Quel est le sens de ce refus pour vous ?
Ben, c'est ma façon de résister. Déjà, moi, j'ai vécu 2 ans en France, en 97, en 99. À l'époque, j'avais 18 ans. Mais c'était vraiment la belle époque pour moi. C'était là où j'ai commencé à comprendre notre culture, à voir les gens, pas que les Français, mais aussi d'autres cultures, parce que j'étais dans une cité universitaire où il y avait tous les étrangers, tous les étudiants de l'étranger qui viennent du monde entier. Et là, quand je suis retourné à Gaza, c'est mon rêve. C'était mon rêve de retourner en Palestine. Et c'est pour ça, c'est ma façon de résister. Pour moi, la résistance militaire, c'est légitime. C'est n'importe quel peuple, il est sous occupation, il a le droit de se protéger même et se résister même avec une résistance militaire. On voit ça en Ukraine et non seulement les gens et l'Occident, ils soutiennent cette résistance, mais en plus, ils donnent de l'argent, ils donnent de soutien, ils donnent des armes. Mais quand il s'agit des Palestiniens, c'est l'inverse. On donne au bourreau, à l'occupant, on le donne des armes et de l'argent et tout le reste. Et pour moi, le fait qu'il y a toujours un Palestinien sur cette terre-là, c'est ça la résistance. Le fait que le Palestinien, la Palestine, c'est avec la richesse du peuple, c'est avec la richesse des Palestiniens, c'est avec la richesse humaine qui existe sur ce sol. C'est pas parce que c'est un bout de terrain ou c'est à ses côtés historiques ou bien religieux ou autre. c'est une appartenance à cette richesse humaine. Et si cette personne-là, et justement c'est ça, ils le savent très bien, les Israéliens et surtout les judaïstes de Netanyahou, ils savent très bien qu'on est l'obstacle, mais que c'est pas le bout de terre, parce que les bouts de terre, ils sont en train de les annexer. Regardez ce qui se passe en Cisjordanie, tous les jours, annexion des territoires, des colonies, nouvelles colonies qui sont en train d'implanter. Mais l'obstacle, c'est la présence palestinienne, c'est la présence de cette richesse, c'est la présence de ces gens-là. Et pour moi, c'est pour ça que je ne voulais pas partir. Je reste, ils m'ont proposé plusieurs fois, depuis le premier jour de la guerre jusqu'à le jour où on est en train de parler. Ils m'ont proposé de partir et je refuse. J'espère que la guerre va finir et que cette page va fermer et qu'on va faire de Gaza et de la Palestine et de la Riviera de Proche-Orient. Et là, si tout ça, ça m'arrête, j'ai promis à mes enfants et à ma femme qu'on peut sortir, changer un peu d'air et surtout aller en France, parce que mes enfants et mon épouse, elle veut bien aller en France, parce qu'elle sait qu'on a des amis et à force de parler tout le temps de la français et de la France, ils ont envie d'y aller. Mais pour le moment, ma façon de résister, c'est rester sur place. Je sais très bien les risques que je suis en train de prendre. Je sais très bien qu'on vit sous des massacres, et surtout en tant que Palestinien, mais aussi en tant que journaliste. Donc c'est encore pire, mais je prends ce risque-là. C'est ma façon de dire non à l'occupation, non au génocide, non au nettoyage ethnique, et qu'on va rester sur cette terre-là. On va re-implanter les oliviers que l'armée israélienne est dans une terrassée, qui est des oliviers qui datent de plus de 80 ans et 100 ans, beaucoup plus que l'âge de la création de l'État d'Israël. On va refaire tout ça et on va rester là.
Aligre FM 93.1.
Voilà, c'était le témoignage de Rami Abou Jamous, journaliste palestinien depuis Gaza, en direct. Dominique Vidal, que vous inspire ce témoignage ?
Ben, je crois qu'il met le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire toute cette guerre folle n'a aucun rapport avec ce que dit Netanyahou, ce que disent Ben-Gvir ou Smotrich. La réalité, c'est la permanence d'une politique israélienne depuis les années 40, depuis le moment de la création de l'État d'Israël et de la disparition de la Palestine. C'est cette politique d'expulsion, ce que les Palestiniens appellent Nakba, catastrophe en arabe. C'est-à-dire en 47-49, on a les milices, disons, juives, puis ensuite l'armée israélienne quand elle a été créée, ont expulsé 800 000 Palestiniens sur 1 200 000. Hein. Ensuite, on a eu en 67 la guerre dite des 6 jours chez nous, la guerre de 67, où pas loin de 400 000 Palestiniens ont été expulsés. Et là, on voit bien que l'ambition de l'extrême droite israélienne, c'est à nouveau de chasser des centaines et des centaines de milliers de Palestiniens de Gaza, des Gazaouis, pour mettre la main sur la terre, mais surtout pour vider. C'est assez intéressant. J'ai regardé ça pour un article qui m'avait été demandé. Quand on regarde quel est le type d'horreur qui domine, évidemment, on pense à Gaza, parce que c'est là que l'extrême droite israélienne, l'armée israélienne, tue de manière abominable.
Et systématique.
Mais le centre de la question, à mon avis, hein, ça reste la Cisjordanie, pour des raisons historiques, pour des raisons de tous ordres qu'on pourrait exposer. Mais ce qui est incroyable, personne n'en parle.
Oui.
Quand vous regardez la plupart des médias, même ceux qui suivent la question, parlent quasiment pas, je mets à part le monde diplomatique ou Orient 21 ou quelques lieux de résistance aussi à la pensée unique. Mais on a cette volonté d'expulser qui est comme, disons, la ligne droite, et elle est droite celle-là, du projet sioniste, du projet colonial. C'est pas une colonie comme du temps des colonies françaises ou britanniques ou autres. C'est l'expulsion de la population.
Avec la Bible comme droit de propriété, puisque la Cisjordanie est désignée comme la Judée-Samarie. Rami Abou Jamous rappelait que l'opération Gédéon emprunte aussi au vocable religieux. C'est finalement le triomphe d'un sionisme religieux auquel on assiste aujourd'hui, Dominique Vidal.
Je ne suis pas persuadé que la religion joue un grand rôle dans tout ça. Je pense que c'est une espèce d'emballage, oui, de paquet cadeau, quoi. D'autant que ça aussi, c'est une chose dont beaucoup de confrères ne parlent pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais la majorité, les deux tiers des Israéliens, veulent la séparation de l'État et de la synagogue. De l'État et de l'Église, de l'État et de la mosquée. C'est-à-dire la pensée, entre guillemets, laïque, même si elle n'est pas qualifiée comme ça, elle est une pensée qui n'a pas cessé de se développer depuis 20 ans, disons. C'est-à-dire les gens ne supportent plus ce que ces gouvernements intrigués, imbriqués, religieux, extrême droite, font, pas seulement à Gaza, mais d'une manière générale, en Israël même. C'est-à-dire, on impose des lois religieuses absolument moyenâgeuses et que les gens ne veulent plus subir. Une partie, d'ailleurs, on en avait parlé l'autre jour, de tous ceux qui ont quitté Israël, je parle des juifs israéliens, pour l'essentiel européen d'origine, une grande partie de ceux qui s'en vont, c'est aussi pour ça. Parce que à tout le reste s'ajoute cette oppression religieuse.
Oui, mais pardonnez-moi de vous interrompre, Dominique Vidal, je me demandais, en vous écoutant, si cette oppression religieuse était rejetée pour un confort de vie au sein d'Israël, mais finalement ignorée parce qu'elle ne les concerne moins lorsqu'il s'agit de défendre l'implantation de colons en Cisjordanie ou à Jérusalem avec expulsion à la clé de familles entières de leur maison.
Ce qu'on comprend mal, il faut aller sur place pour le comprendre en fait. On ne peut pas l'apprendre dans les livres ou dans les médias. C'est que la religion, elle joue un grand rôle dans la vie parce qu'elle est une des colonnes vertébrales de l'État d'Israël. Mais en même temps, les gens croient de moins en moins. C'est une drôle de contradiction d'avoir ces deux parties ultra-orthodoxes qui font du bruit en permanence et prennent de l'argent pour leur réseau. Et de l'autre côté, une population qui veut la laïcité. Enfin, c'est quand même un fait frappant.
Mais qui a porté au pouvoir ces membres de partis orthodoxes.
Absolument, non. Mais si vous voulez, je vais vous donner un exemple pour être plus précis. Quand on demande aux Israéliens pourquoi ils défendent la colonisation, l'occupation de la Palestine, les gens qui ont de l'humour, il y en a quand même beaucoup, répondent, mais c'est parce que nous croyons à cette promesse de Dieu en laquelle nous ne croyons pas. C'est-à-dire, tout le monde sait que ce n'est pas la Bible qui nous donne droit en Israël au sol et au sol des Palestiniens par la même occasion, mais tout le monde sait aussi que la promesse divine, c'est un argument qui n'a plus de crédibilité.
Rami Aboujamous, vous êtes toujours en ligne avec nous sur Aligre FM.
Oui.
Vous avez évoqué tout à l'heure le Hamas. Quel est l'état de l'opinion palestinienne à l'égard du Hamas? Est-ce que certains considèrent que le 7 octobre a fourni le prétexte à ce qui se passe aujourd'hui?
Bien sûr, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit Dominique, c'est un grand cadeau que le Hamas a donné au gouvernement israélien et surtout au gouvernement d'extrême droite, parce qu'ils attendaient ce moment et c'est pour ça, pour moi, peut-être Dominique il est d'accord avec moi ou pas, mais celui qui vit dans cette région-là, s'il ne croit pas à la théorie de complot, je ne le conseille pas de vivre ici. Et c'est pour ça que pour moi, ce qui s'est passé, c'est un grand cadeau. Il faut poser 36 000 questions, comment ça a été fait. Nous, les Palestiniens, et surtout à Gaza, on sait très bien comment on est surveillé, comment on est puni et comment on est surveillé 24/7 par le Shabak, le Shin Bet et l'armée israélienne. On sait très bien que même un petit chat, il ne peut pas passer les frontières. Et donc, ce qui s'est passé de cette façon-là, et après, l'armée, il fallait prendre 4 heures pour que l'armée arrive à bouger.
L'armée israélienne.
Alors qu'il y a un missile qui sort du Yémen, et tout de suite, il est détecté. Il faut poser des questions. Mais vraiment, c'était un grand service. C'était un grand cadeau. Et la population de Gaza, c'est la question qu'il me pose à tout le temps. Est-ce que la guerre a changé la popularité du Hamas ou pas? Mais parlons de Gaza. La popularité du Hamas avant la guerre a beaucoup baissé. Depuis les 15 ans de pouvoir, le Hamas, ils étaient là depuis 15 ans. 15 ans de pouvoir, on n'avait que des guerres, que des blocus, que de la souffrance et surtout 15 ans de pouvoir d'un seul parti, c'est toujours les gens, ils ont contrepartie. C'est exactement ce qui se passe en Cisjordanie envers le Fatah et envers l'autorité palestinienne. Quoique, ils vivent beaucoup mieux que nous, entre guillemets, les Palestiniens qui sont en Cisjordanie. Ils ont l'occasion d'aller travailler en Israël, ils ont l'occasion de partir, de voyager. Ils ont plus de facilité. Il y avait beaucoup de restrictions, beaucoup de barrages, beaucoup, mais par rapport à ce que nous, on vit dans une cage à ciel ouvert, je crois que les gens, ils en veulent au Hamas et que la popularité de Hamas non seulement a baissé, mais aussi il y a beaucoup de comptes à rendre après cette guerre-là. Et on a vu qu'il y avait des manifestations qui sont sorties. La dernière, c'était il y a quelques jours à Khan Younes, quand les habitations de Khan Younes, l'armée d'occupation, ils ont demandé l'évacuation de toute la ville de Khan Younes. Et là, les gens, ils en ont marre de se déplacer pour la énième fois. On a vu des manifestations spontanées qui sont sorties dans les rues. Et en même temps, on a vu des insultes contre des chefs du Hamas et surtout ces chefs qui vivent à l'étranger, que parfois ils disent des interventions où ils disent des phrases qui n'ont rien à voir avec la réalité et qui a rendu la population beaucoup plus furieuse. Et c'est normal qu'on a perdu, ils ont perdu cette popularité. Et surtout que la population, cette fois-ci, ils souffrent. Mais pour le moment, le Hamas, c'est pas l'ennemi. Peut-être le Hamas, c'était la raison à laquelle on est là. Mais les gens, ils voient très bien que la bombe qui est larguée, ils font pas la distinction entre un Hamas ou pas un Hamas. Mmh. Les bombardements massifs et les intensifications des bombardements, avoir de beaucoup plus de civils que du Hamas, c'est pas un hasard. Et les gens, nous, on n'est pas dupes. On sait très bien pourquoi les Israéliens ils font ça. Et on sait très bien les capacités militaires des Israéliens. L'armée israélienne, ils peuvent viser une aiguille au sein de la mer sans faire des dégâts à côté à une autre aiguille qui est juste à côté. Mais non, ils préfèrent qu'il y aura beaucoup de dégâts au côté civil. Et justement, c'est pas parce qu'ils veulent éradiquer le Hamas, c'est pas pour libérer les prisonniers, parce que si on fait ça, les prisonniers, ils vivent avec nous. Ils ont vu qu'il y a beaucoup de prisonniers qui sont morts à cause de ce genre de bombardement. Mais justement, le but qui a été caché au début avec l'arrivée de Trump, c'est mis sur la table, c'est pas éradiquer le Hamas, mais plutôt éradiquer toute la population de Gaza, de la déporter de toute Gaza et vers l'étranger. Et avant, on se cachait, les Israéliens ou bien le Netanyahou et son gouvernement, ils n'osaient pas le dire, mais le Trump, il l'a dit clairement et du coup, maintenant, on le répète et on utilise toujours ce terme-là, le plan de Trump. Quoi ? Le plan de Trump, c'est quelque chose, c'est vraiment la seule solution pour que la population palestinienne à Gaza puisse survivre. Il faut voir et les faire sortir.
Oui, c'est donc un blanc-seing qui a été donné, c'est donc un blanc-seing qui a été donné à Netanyahou et à son gouvernement. Mais pardonnez-moi de vous interrompre, Rami Abou-Jamous. En vous écoutant, je pense à ce qu'a installé aussi la diplomatie Trump. On a vu des négociations directes de Trump avec le Hamas pour la libération d'Edan Alexander. Là, le gouvernement israélien a été contourné. Et quel signal a été envoyé de cette façon-là, à la fois au gouvernement israélien et à l'opinion mondiale, sur ce qui est présenté comme, je dis bien présenté, comme une offensive destinée à éradiquer une organisation avec laquelle on ne pourrait pas négocier?
Oui, mais c'est malheureusement, déjà, il faut voir un peu le côté historique. C'est-à-dire, c'est toujours le plus fort qui impose les lois et qui impose les termes. Considérer le Hamas comme un groupe terroriste, c'est parce que les Israéliens, ils considéraient que c'est un groupe de résistance. Donc, pour avoir un feu vert pour éradiquer ces gens-là ou bien pour tuer toute personne, on dit c'est un terroriste. Et c'est exactement dans tous les occupations dans le monde, même en France, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on voyait comment les Allemands, toute personne qui voulait se débarrasser, c'est un terroriste, que ce soit un résistant, que ce soit un journaliste ou même même un civil normal, pour se débarrasser, donc on utilise ce mot. Malheureusement, parce que c'est les Israéliens qui ont inventé ce mot-là, on connaît tous des terroristes, donc du coup, tout le monde a repris ça. Mais pour les États-Unis, surtout pour Trump, pour lui, ce qui est plus important pour lui, c'est l'argent. Et c'est pour lui, l'argent, c'est les business. Et pour lui, faire un accord avec le Hamas, ou bien s'asseoir au Hamas, il y avait déjà une précédente, les talibans, ils étaient l'ennemi numéro un. Les talibans, c'était le 11 septembre, c'était Al-Qaïda, c'était tout ce que vous voulez. Et à la fin, ils se sont mis sur une même table, ils ont parlé, discuté, et tout va bien. Et ça, exactement ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, le Hamas, ils sont assis face à face avec Witkoff ou bien avec Bouler. Et donc, on est arrivé à Alexandre, l'aberration de Alexandre. Et ça a rendu un peu furieux Netanyahou et tout, parce que c'est un détournement ou bien un peu Trump, il a tourné le dos et il a forcé la libération ou bien il a arrivé à faire cette libération-là. Et c'est pour ça que juste après cette libération, on a eu une intensification de bombardements de la part de Netanyahou comme une vengeance contre Trump, mais c'est nous qui payons la facture. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup, beaucoup de morts et de massacres après ce jour-là ou bien après la libération, justement pour dire à le monde entier, c'est nous qui décidons, c'est pas Trump qui décide. Et pour l'aide humanitaire, c'était un accord avec le Hamas et Witkoff pour qu'il y aura 100 camions qui passent tous les jours. Ils voulaient montrer que non, on l'a fait parce qu'on va perdre nos amis, c'est pas parce que c'est Alexandre ou bien l'accord entre Hamas et Witkoff. Et en même temps, c'est que moi, c'est mon conseil à dire au monde entier, parce que maintenant, on sait très bien c'est quoi les vrais buts de cette guerre-là. Asseyez-vous avec le Hamas. Parlez avec le Hamas. Ça peut changer. Le Fatah, à une certaine époque, c'était des terroristes. Et puis, c'était l'homme de la paix, Arafat. Il a pris le prix Nobel avec Pérez. Et puis, on a vu après, il est redevenu terroriste. C'est exactement le scénario qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, les membres du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, ils sont en train de dire que Abbas est un terroriste. Alors que c'est un mec qui parle que de la paix. Et il est contre la résistance militaire, il le dit clairement, il fait avec ça, il arrête les mecs du Hamas en Cisjordanie. Et malgré tout ça, on appelle un terroriste pour se débarrasser de lui. Il faut faire des réformes à l'autorité palestinienne pour qu'on puisse négocier avec eux. Et la réforme, nommer une autre personne parce qu'il y a une corruption, tout ça, c'est n'importe quoi. Et malheureusement, l'Occident, il y croit. Donc du coup, tout ce qu'ils disent Israël, oui, il faut faire ça. Il faudra, Abou Mazen, ben, c'est vous qui bloquez, donc dégagez-vous un peu. C'est exactement la même phrase qui a été dite à Arafat en 2002. Et là, c'est la même chose. C'est juste que ce gouvernement-là, ils ne veulent pas faire la paix. Ce gouvernement, il vit avec le sang. Netanyahou, tant qu'il y a le sang qui coule, tant que lui, il est en vie politique. Alors, le jour où cette guerre-là s'arrête, il n'est plus en vie politique, il va perdre sa vie politique.
Oui.
Donc c'est comme un zombie qui vit avec le sang. Et c'est pour ça, le Hamas, ça peut changer. Ça peut changer. Essayez-vous avec le Hamas, parlez avec le Hamas, et voyez si le Hamas allait réagir, voyez est-ce que c'est vraiment un groupe terroriste ou pas, et changez un peu les normes. Ne prenez pas les références de tout ce qui se passe dans le gouvernement israélien.
Rami Abou Jamous.
C'est des références internationales.
Alors, on arrive bientôt, malheureusement, au terme de cette émission. On vous donnera l'occasion d'intervenir à d'autres moments également.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Je voudrais juste que Dominique Vidal, qui semble vouloir réagir à ce que vous dites, puisse intervenir.
Non, c'est pour dire que notre but, en tout cas ici, nous ne sommes pas au premier rang. Hein. Oui. C'est de faire en sorte que les signaux positifs venus des dirigeants occidentaux se confirment et aboutissent à des décisions qui posent vraiment problème
décisions
à la
concrètes.
Direction israélienne.
Et parmi ces décisions, le levier économique est un
notamment
levier puissant.
La suspension de l'accord d'association qui est une menace considérable pour l'État d'Israël. C'est un tiers, encore une fois, de son commerce extérieur qui en dépend. Aujourd'hui, il arrive avec des marchandises en Europe qui ne connaissent pas de droits de douane, et réciproquement dans l'autre sens. Si à nouveau il y a des droits de douane parce que l'accord d'association est suspendu en vertu de son article 2, alors c'est un vrai danger pour l'économie israélienne, qui est déjà d'ailleurs pas particulièrement en bonne forme, évidemment. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut... Parmi les raisons pour lesquelles les dirigeants occidentaux se sont fait un peu entendre depuis quelques jours, Il y a beaucoup de choses dont nous avons parlé, mais une chose dont nous n'avons pas parlé, c'est la pression de l'opinion publique. C'est pas par hasard que le Premier ministre britannique prend des décisions majeures, puisque c'est l'arrêt de tout commerce avec Israël. Il y a eu des manifestations de 500 000 personnes à Londres. De la même manière, en Espagne, c'est sur cette mobilisation de l'opinion que le Premier ministre s'est appuyé pour reconnaître, lui, déjà, l'État de Palestine. Et de la même manière, il faudrait qu'en France, nous ayons aussi un type de mobilisation massive, et ça n'est pas le cas. Et ça vaut d'y réfléchir.
Comment expliquez-vous que ce ne soit pas le cas en France, Dominique Vidal ?
Bon, je pense qu'il y a une guerre idéologique contre la Palestine et contre l'autodétermination en général, qui fait que les gens hésitent, quoi qu'ils pensent, à se prononcer. On a peur d'être convoqué au commissariat pour apologie du terrorisme. Hein. Mmh. C'est évidemment absurde, ça n'a aucun sens. Les gens qui se mobilisent pour arrêter le génocide ne sont pas des terroristes. C'est ceux qui font les génocides qui sont des terroristes.
Mais on voit la convergence d'une forme de terrorisme d'État qui se joue à 400 km de nous.
Absolument.
Et d'un terrorisme intellectuel qui pèse aussi beaucoup sur les consciences et,
absolument.
Et la parole, effectivement.
Mais c'est nouveau. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu une pression forte des lobbies pro-israéliens, bien sûr. Mais là, il y a une espèce de confusion qui... enfin, on a vu cette... absurdité du rapport sur les frères musulmans. Enfin, on voit bien comment on joue, Macron, Retailleau, joue avec ces choses pour empêcher les gens de se manifester.
Est-ce que la reconnaissance d'un État palestinien peut aller sans une intervention concrète, là aussi, pour faire en sorte que cet État soit viable sur un territoire qui, pour l'instant, ne l'est pas. Vous-même, vous avez écrit récemment un très bel ouvrage, Palestine-Israël, une histoire visuelle, qui permet de mesurer aussi ce qui se joue sur des cartes.
Absolument. Absolument. Mais je pense qu'on mesure mal la fragilité de la direction israélienne. Parce que même les gens qui sont des nationalistes, qui soutiennent l'occupation, c'est difficile d'être pour l'assassinat de milliers d'enfants ou de femmes. C'est difficile d'être pour l'assassinat de 200 journalistes.
Mais détourner les yeux, c'est peut-être moins
oui,
difficile.
Oui, mais tant qu'on peut détourner les yeux. Ce que je vois depuis quelques jours, c'est que, semble-t-il, on ne peut plus détourner les yeux parce que si on ne dit pas quelque chose, pour l'instant, c'est de la parole, hein, et les paroles restent et s'envolent ensuite. Mais on a une situation où, je veux dire, les dirigeants occidentaux n'ont plus envie d'être reconnus comme soutien par leur silence de la direction israélienne.
Un soutien qui pourrait être finalement passible d'une accusation de complicité.
Bien sûr, bien sûr.
S'il s'avère qu'il y a bien un génocide, ce qui semble être le cas, n'en déplaise à tous ceux qui préfèrent en discuter des heures plutôt que d'agir pour l'empêcher au moins. Une dernière question, Rami Abou-Jamous évoquait la possibilité de s'asseoir à une table avec le Hamas. On a vu la diplomatie Trump prendre une tournure inattendue avec des accords possibles avec l'Iran, là où Israël prône une guerre. Est-ce que ça vous semble une option crédible, un jour, que le Hamas puisse s'asseoir à une table avec les autorités américaines, européennes?
Évidemment, enfin, c'était Biden, mais Trump a déjà dit qu'il n'était pas en désaccord là-dessus avec Biden. On a vu comment l'intervention en Afghanistan a tourné court, après 20 ans de tentatives d'écraser le mouvement des talibans et tout ce mouvement islamiste pour de bon. Là.
Rami Aboujamous, le dernier mot vous revient. On a évoqué ce qui se passe au quotidien dans la bande de Gaza, l'horreur des hôpitaux détruits, de l'absence d'accès aux soins, l'absence de possibilité d'opérer dans des conditions humaines.
De torture systématique des prisonniers.
De torture systématique des prisonniers, rappelle Dominique Vidal, des vidéos de soldats israéliens bafouant l'intimité de maisons détruites et toutes sortes d'atteintes finalement aux droits humains. Vous, en tant que Palestinien qui refuse de quitter la bande de Gaza pour résister, vous l'avez rappelé vous-même, qu'attendez-vous aujourd'hui des politiques européennes et internationales ?
Que j'entends, malheureusement, on est abandonné depuis 48. La communauté internationale, on est abandonné par cette communauté internationale depuis 1948, que ce soit les pays arabes, musulmans, l'Occident, tout le monde. Mais c'est grâce à des gens comme Dominique, comme vous, qui parlent de ce qui se passe d'une façon avec justesse, avec tous les mots qui existent, avec l'humanité, avec... on n'a pas besoin d'être ni historien, ni juridique, ni politicien pour dire ce qui se passe, pour dire qu'on est en train de faire un génocide, pour dire qu'on est en train de priver de nourriture et tout, on est en train d'être affamé, que les vrais buts, tout le monde ne se cache pas, et pour dire que c'est un génocide de nettoyage ethnique. Mais c'est grâce à des gens comme vous, c'est grâce aux mobilisations dont Dominique en a parlé, que ce soit au Royaume-Uni, en Espagne et tout, même en France, parce qu'en France, il y a une mobilisation. C'est vrai que il y a des restrictions, l'autocensure, il y a des nouvelles lois qui les gens ils ont peur, surtout cette loi de l'apologie au terrorisme. Mais quand même, on a vu une grande mobilisation, que ce soit dans les universités, Sciences Po, et même dans les gens entre guillemets normaux. Donc cette mobilisation fait du sorte que peut changer les politiciens, parce que un politicien pour lui, c'est ça. Entre guillemets succès politique, son pouvoir avant tout. Et s'il voit que son pouvoir et son succès politique, ça peut être déraillé ou bien sorti du cadre politique, il change d'avis parce qu'il voit que maintenant la vérité est là, la tendance c'est vers l'humanité, la tendance c'est dire la réalité, la tendance ne pas être sous support indéterminé et illimité pour Israël, et qu'il faut voir les choses telles qu'elles sont. Les gens, malheureusement, ils ne sont pas dupes. Et c'est vrai qu'il y a une propagande, une machine médiatique, et il y a une guerre, un génocide médiatique qu'on est en train de subir dans le monde entier, surtout en Occident et en France. Mais malgré ça, les gens, ils ne sont pas dupes. Ils savent très bien ce qui se passe. Ils bougent. Et c'est pour ça que moi, je crois à la population, je crois à la justice, je crois en vous, parce qu'il y en a beaucoup, des gens comme vous. Je vous remercie de tout mon cœur. Et j'espère que tout ça, ça va changer. Et le politicien, à la fin, c'est pas parce qu'il s'est réveillé de l'humanité ou quoi que ce soit, mais au moins pour des raisons politiques, pour son propre profit, il va changer d'avis et on va finir par arrêter déjà ce génocide, reconnaître l'État palestinien, créer un État palestinien indépendant, finir l'occupation et vivre en paix avec les Israéliens. Moi, je connais beaucoup d'Israéliens qui veulent, et que j'ai des bonnes relations avec eux, qui veulent qu'on vive côte à côte sans aucun problème, et surtout que ce problème, c'est les politiciens qui l'ont créé, c'est pas les populations. Il y a beaucoup de Palestiniens qui vont travailler en Israël, qui ont des amis, des patrons israéliens qui gagnent de l'argent. On peut faire quelque chose d'économique, parce que pour Israël, justement, tout ce qui est économique, c'est important. Donc on peut faire un exploit politique en vivant en paix, beaucoup plus qu'en vivant sous la guerre.
Merci Rami Aboujamous pour ces paroles sur Aligre FM 93.1, et peut-être Dominique Vidal, que ce qui se joue actuellement à Gaza et en Cisjordanie est une espèce de défaite d'Israël malgré tout, malgré l'occupation.
Je suis persuadé qu'Israël va payer extrêmement cher l'horreur à laquelle il s'est livré depuis le 8 octobre 2023.
Merci à vous, Dominique Vidal, d'être venu ce matin à ce micro auquel vous êtes fidèle. Je rappelle votre ouvrage publié aux éditions du Seuil, Palestine-Israël, une histoire visuelle, publié avec Philippe Rakasevitch, un ouvrage majeur pour qui veut comprendre avec le recul de l'histoire et du temps long ce qui se joue dans cette actualité effrayante.
Avec une centaine de cartes.
Avec une centaine de cartes, oui, absolument, qui permettent de visualiser réaliser vraiment ce qui se joue sur le plan géographique et politique en même temps. Merci également à Rami Aboujamous qui était ce matin à notre micro depuis Gaza et qui est l'auteur d'un journal de bord de Gaza publié aux éditions Libertalia, journal de bord qu'il tient dans les colonnes de notre confrère Orient 21, excellent journal en ligne auquel nous vous renvoyons. L'émission arrive à son terme. Je précise également que c'est une émission enregistrée parce que nous traitons de l'actualité et que tout peut se passer heure après heure. Merci à Enrico Mastrogiovanni et Philippe Donnefort qui étaient en régie ce matin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très bientôt.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.